Lol.
Kiaora, good evening, bonsoir, vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles, 104.6 FM, Planète FM, Auckland, Nouvelle-Zélande, 2019, il faut le dire, parce que nous c'est notre première émission à nous trois en live.
Bonne année.
Il y a eu une émission live la semaine dernière, en direct pardon, la semaine dernière, mais pas avec nous. Virginie?
Bonjour. Bonsoir. Comment ça va?
Ouais, bah ça va super. Yvan, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Ça va, très bien.
Ouais, tout le monde a le sourire. Je pense que c'est le beau temps quand même. Ça fait 2-3 semaines sans vraiment. Bah, il a plu 10 minutes à l'ouest. Je sais pas où, je me rappelle plus où vous habitez, vous. Mais du genre, pas grand chose. Mais il a fait chaud et beau encore aujourd'hui.
Non, moi je vis dans l'ouest, mais on n'a pas eu d'eau.
Mais pas le même ouest. Toi, t'es côté Ranui, c'est ça?
Je suis côté New Lynn,
voilà. Mmh. Moi, je suis côté Hobsonville.
Ah ouais, mais t'es super loin, toi.
Super loin, super loin. Je suis presque au nord.
Faut un passeport pour aller chez
ouais,
toi.
C'est plus le vrai ouest. Moi, je suis le far west. Qu'est-ce qu'on rigole. Et toi, Yvan, il a plu chez toi ou pas?
Ah ben moi, je suis à Dominion Road, alors.
Ah ouais.
Moi, j'ai de la pollution, moi.
Ouais, mais il pleut pas, la pollution, aussi.
Ben, il a plu un tout petit peu, mais ça fait un petit peu, ouais. Au moins 2 semaines qu'il n'y a pas plu. Hein.
Mais d'accord. Oui, mais là, il pleut demain.
C'est pas grave.
Si demain...
Il devait pleuvoir aujourd'hui, il n'a pas vraiment
Et
plu.
Pourquoi tu nous dis ça?
Parce que, en fait, je retourne... Non, mais c'est bien, je retourne travailler, c'est bien. Je retourne travailler,
fous, en fait,
donc je m'en fiche, en fait. Voilà.
On pense aux Français, s'ils nous écoutent, qui sont en hiver. Nous, on en est en été.
Ah, ils le sont bien en hiver.
Mais quoi que leur hiver a commencé très très tard, hein, parce qu'il a fait beau en France jusqu'au 15-20 décembre. Beau et chaud même. Il y avait des coins dans les 20 degrés. Maintenant, il caille un petit peu, d'après ce que, quand on regarde la météo.
Je confirme.
Voilà. T'étais à Cherbourg, il caillait?
Cherbourg, non, parce que c'est tempéré, c'est à côté de la mer, mais non, sur Paris, froid.
Froid sur Paris.
Voilà. Oui.
Il fallait mettre son gilet jaune, donc.
Voilà.
Ou son gilet
tout court. Yvan, tu as choisi une petite musique, t'as dit juste pour l'entrée, parce qu'il y a pas de, on n'a pas d'infos à passer aux gens qui nous écoutent.
Non,
il y a pas
petite
de
musique.
Notice, donc petite musique.
Vous marchez Juliette au bord de l'eau, vos casserelles rouges sur le dos, vous chantiez Alice de Lewis Carroll. Sur une bande magnétique un peu folle. Sur les vieux écrans de 68, vous étiez chinoise mangeuse de frites. Ferdinand Godard, vous avez un baguette de l'autre côté du miroir d'un café. Dans la tire qui mène à Hollywood, vous savez bien qu'il faut jouer des coudes. Les superstars, les petites filles de Marlène, vous coinceront Juliette dans la nuit américaine.
Yves Simon, que vous avez tous reconnu au Pays des Merveilles de Juliette. Merci Yvan pour ce très bon choix qui nous rappelle les années 70 un petit peu quand même.
C'est ça.
Bah toi peut-être, mais moi non.
T'étais pas né, c'est ça.
Voilà, t'es une jeune... J'étais pas né.
J'étais pas né.
T'es né en quelle année?
Je ne te dirai point.
1980 quelque chose.
10.
10.
Oula. Non, mais non. Enfin.
Non, bref. Bah, elle avait les oreilles à charbon, on ne pouvait pas les avoir ouvertes sur Yves Simon.
Exactement.
Alors, de retour, de Cherbourg aussi, mais tu as envie de nous parler d'Andalousie, parce que tu y as passé combien de jours?
En Andalousie, je suis restée plus longtemps en Espagne, mais en tout cas en Andalousie du 25 au 31 décembre. Donc oui, je disais tout à l'heure, je suis rentrée en Europe pendant 4 semaines. Je suis rentrée mercredi cette semaine. Oui, donc c'était très bien malgré le fait que, oui, on en parlait tout à l'heure, la France est en crise et il y a beaucoup de gilets jaunes un peu partout et beaucoup de ronds-points avec beaucoup de palettes. Mais à part ça...
En semaine ou en week-end?
Le week-end. Mais c'est vrai que ça se voit, la semaine, les ronds-points sont quand même un peu abîmés, on va dire. Mais,
Les ronds-points, Cherbourg aussi.
Alors, Cherbourg, j'ai pas trop passé de ronds-points Cherbourg, mais en tout cas, région parisienne, oui, et puis au sud de Cherbourg, oui, ça se voyait. Mais bon, en parler, c'est peut-être pas la région qui est la plus rebelle en France, en tout cas, mais ça se passe beaucoup sur Paris, et comme je suis restée sur Paris quasiment 2 semaines.
Même sur Montpellier, hein, je te confirme, parce que mes parents et ma sœur sont de Montpellier, donc
ils font des
échos aussi.
Ils font des ronds-points.
Ouais, je pense qu'ils font des manifs et des ronds-points.
Oui, et puis c'est pas nécessairement que ça, ils font des opérations escargots aussi.
Donc, ouais, pour Noël.
Donc il y a quand même pas mal de trucs qui se passent. Hein. Mais c'est vrai qu'en étant allé à Paris, et je le vois à chaque fois que j'y rentre, là j'y rentre tous les ans, mais... Normalement, non. C'est vrai que la situation à Paris s'est quand même dégradée. Hein. Il y a quand même des bidonvilles sur le bord des routes. C'est devenu un vrai problème. Mais bon, bref, je vais quand même parler de mes vacances en Andalousie qui sont beaucoup mieux et beaucoup plus chaleureuses et beaucoup plus gaies.
Il faisait chaud en Andalousie. Parce que c'est 2500 km de Paris.
Oui, et puis en fait, j'allais commencer un peu avec ça, ou finir avec ça d'ailleurs. C'est une belle région à visiter l'hiver. J'avais regardé sur Internet justement les régions à visiter l'hiver et où aller, où c'était finalement toujours assez chaud ou en tout cas pas aussi froid.
Petite question, c'était ta première fois en Andalousie ou tu l'avais déjà fait avant?
Non, Andalousie, première fois. Espagne, deuxième fois. Je suis déjà allée à Madrid, Salamanque, mais j'ai toujours voulu aller en Andalousie. Mon mari n'était jamais allé en Andalousie, donc quand on a regardé l'année dernière, on avait fait l'Italie. Quand on a regardé des destinations, c'était vraiment la destination que l'on souhaitait faire cette année. Donc voilà, on a fait ça. Donc je disais, on y est resté du 25 au 31 décembre, et puis après du 31 décembre au 2 janvier, on est allé à Barcelone. Donc là-bas, enfin, je vais pas tellement parler de Barcelone, parce que Barcelone c'est une grande ville, hein, c'est comme Paris, c'est comme Rome, c'est toujours pareil.
Mais l'Andalousie c'est une grande région aussi, où t'as fait qu'une seule ville, t'as fait Séville, t'as fait quoi?
Alors non, on a commencé avec Grenade.
Grenade.
On a resté une nuit sur Grenade. Alors ça, c'était vraiment important pour moi de visiter Grenade, parce que j'avais jamais visité la merveilleuse Alhambra. Donc j'avais vraiment envie de visiter. J'avais vu énormément de photos, donc c'était vraiment quelque chose que je voulais visiter. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes déjà allé d'ailleurs?
Non, c'est l'un de mes rêves d'aller en Andalousie. Moi, j'ai beaucoup fait Barcelone et toute la côte là comme ça. J'ai fait le tour du nord, León, le pays de León.
Oui, Sierra Leone. Ouais. C'est ce que j'avais fait.
Santander, la de Compostelle, Saint-Jacques de Compostelle. Mais à part ça, j'ai jamais fait le sud de l'Espagne.
Alors on pourra en parler. Je te donnerai des tips.
Des tuyaux.
Des tuyaux, voilà. Et toi, Yvan, tu y es allé ou pas encore?
Uniquement à Barcelone.
Barcelone. Ouais. D'accord. Ouais. Donc en fait, il y a plusieurs parties à l'Alhambra et je me suis très très vite rendu compte quand j'ai commencé à réserver avant de partir en Espagne. Donc là, je parle quasiment 2 mois que l'Alhambra, ça fait vraiment partie des endroits où faut réserver. Très très à l'avance.
Beaucoup plus que 2 mois à l'avance.
Ah oui, le plus tôt possible.
D'accord.
Alors en fait, la raison, c'est que donc il y a 3 parties. Il y a El Casaba, il y a ce qu'ils appellent le Generalife, c'est un jardin, et puis il y a les Palais Nasrides. Et les Palais Nasrides, si vous avez déjà regardé, en général, c'est assez connu. Il y a une cour, un espèce de patio. Et au milieu, ça s'appelle la Cour des Lions, et il y a une fontaine, etc. Donc c'est assez connu. C'est un palais du 14e siècle, c'est des bâtiments ornementaux, il y a plusieurs salles, plusieurs jardins, plusieurs patios, ça a été construit au cours de plusieurs générations, mais et les entrées sont très très limitées.
Ah oui, d'accord. Donc, parce que ça reste privé ou parce que c'est
non, c'est, parce
c'est public mais il y a peu de place.
C'est bah c'est public, c'est privé. Tu payes pour rentrer.
Oui, oui.
mais
ça appartient au monument historique d'Espagne ou c'est à la famille machin.
Non, non, je pense que ça appartient au pays. Mais en fait, c'est des. Si vous êtes déjà allé au Maroc, c'est le même type de palais. Donc, c'est vraiment très fin au niveau de l'architecture. Et donc, ils limitent le nombre d'entrées pour éviter la pollution, voilà, etc. Et puis d'abîmer le palais.
Donc, faut pas toucher à quoi que ce soit, c'est ça?
De manière générale, oui. Ils sont assez à cheval là-dessus. Faut garder son sac à dos à l'avant, etc. Donc, ils font vraiment très très attention, ce qui est très bien d'ailleurs. Donc, si vous connaissez pas trop la région, c'était la région qui était mort. Donc c'était la partie arabe de l'Espagne.
Pendant le plus longtemps.
Voilà, surtout. Voilà, si vous connaissez Charles Martel.
C'est environ 5 siècles de mort.
Oui, bah c'est à partir de 700, 700 comme ça, jusqu'en 1000. Attends, je vais retrouver. De 780, ou autour de ça, et après jusqu'en.
1400 et des brouettes.
Jusqu'à la Reconquista. Donc je sais pas, j'arrive pas à trouver ma note, mais en tout cas jusqu'à la Reconquista.
D'accord.
Donc je disais quoi?
Oui, donc l'influence arabe.
Voilà, donc c'était le royaume de Grenade et plus spécifiquement c'était donc l'émirat de Grenade. Et puis donc il y avait une dynastie arabe qui s'était établie là-bas. Donc c'était établie par Mohamed Ben Nasser, donc d'où le nom de du palais Nasride, et donc c'était un palais impérial destiné à la vie de cour des Nazaris. Voilà. Donc on est resté une nuit là-bas, après on est bougé sur une autre ville qui s'appelle Ronda, donc là c'est complètement différent pour le coup.
Combien de kilomètres environ? T'avais une voiture ou t'es...
On avait une voiture.
Transport en commun, ça
marche? Non. Là non. Cette fois-ci j'avais fait l'Italie avec les trains, mais là cette fois-ci on a pris une voiture parce que on avait mon neveu qui a 3 ans et demi, donc c'était beaucoup plus facile d'y aller en voiture. Donc voilà, on a bougé. Donc là, Ronda qui est au sud, en se dirigeant, parce que en fait, si tu regardes le sud de l'Espagne, Grenade, c'est vraiment, ça prend à peu près 3 heures de Séville. Donc nous, on est arrivé à Séville. Donc tu vas vers l'est, et là tu as Grenade et Ronda. Faut revenir vers le sud en direction de Séville, plus ou moins. Donc là, pas mal de routes. En tout cas, c'est une très jolie ville. Sa particularité, c'est d'avoir un pont. Ce pont, il a été construit au 15e siècle. C'est au-dessus d'une gorge. Et le pont, pour vous donner une idée, l'élévation, elle est à 739 mètres. Donc en fait, c'est assez joli. Et puis c'est vraiment construit au bord de la roche. Et pour le coup, il y a une vue imprenable sur la vallée. C'est vraiment magnifique. En tout cas, de toute la région, c'était là où on trouvait finalement qu'il faisait le plus chaud. Et puis donc vous pouvez regarder le village est vraiment très très joli. Si vous aimez bien la corrida, moi j'aime pas, mais en tout cas si vous aimez bien la corrida, ils ont quand même vous pouvez aller voir des corridas dans cette ville quand c'est la saison.
Mais et quand tu dis il fait chaud, il fait c'est l'hiver, c'est il fait combien chaud? 20 degrés ou 40?
En fait non, il fait comme ici en hiver.
Donc 28, pas mal.
Donc c'est vraiment ce que je disais, hein, c'est comme la Nouvelle-Zélande en hiver.
Mais bon, c'est presque mieux d'y aller en hiver, alors tu nous conseilles?
Alors moi je conseille
parce que
d'y aller en hiver.
Parce que sinon c'est 40, 45 degrés.
Oui, et puis de toute façon vous aurez beaucoup plus de gens, même là on en avait quand même pas, il y avait quand même pas mal de gens à visiter. D'accord. Parce que justement ça fait partie de ces régions qui sont quand même bien au niveau du climat pour visiter pendant l'hiver. Et vu le monde qu'il y a en hiver, ça sert. Enfin, pour moi, c'est limite de n'essayer même pas en été parce que je pense que c'est impossible de visiter les endroits. Déjà, je disais les palais Nasrides, c'était très très difficile d'avoir des tickets. J'en parlerai un peu plus tard. On est allé à Séville et donc il y a la cathédrale de Séville qui est un des endroits à visiter. Nous, on n'a même pas pu rentrer parce que trop de monde et ah c'était oui. Que l'hiver. Donc, je vais continuer. Après être allé à Ronda, on est reparti vers le nord pour aller visiter Cordoue. Alors à la base, on savait pas si on allait visiter Cordoue, mais c'était tellement difficile de trouver une nuit à Séville que là,
ah oui.
C'était beaucoup plus simple d'aller vers Cordoue. et de rester.
Donc ton itinéraire a changé à cause des nuitées. Voilà. T'as fait plutôt camping, t'as fait glamping, t'as fait hôtel, t'as fait quoi?
Non, j'ai fait Airbnb. Je vais en parler tout à l'heure parce qu'il m'est arrivé une petite histoire à Barcelone et je vous raconterai tout à l'heure si j'ai le temps.
Ça c'est Barcelone, c'est spécial.
Oui, j'ai compris. C'est spécial, oui. Alors, donc on est remonté vers Cordoue. Alors, pour ceux qui connaissent pas Cordoue, c'est connu pour la cathédrale mosquée de Cordoue, ce qu'ils appellent aussi la mesquita. C'est juste au bord du Guadalquivir, qui est la rivière qui passe la ville de Cordoue. Donc, il y a un pont romain qui est au milieu de la ville, qui est juste en face de la mesquita. Donc là, faut vraiment marcher sur ce pont et là, vous arrivez directement sur la mesquita qui est vraiment, vraiment jolie. Alors par contre, l'intérieur et l'extérieur, rien à voir. L'intérieur est très surprenant et vraiment unique et j'ai vraiment aucun regret d'avoir fait finalement plus de route pour
Parce
aller
que c'est
voir.
Combien d'heures pour Cordoba?
Ça dépend de Séville, c'est à peu près une heure et demie.
Une heure et demie.
Voilà.
Mais donc, grosso modo, l'Andalousie, sur 3 heures de route, droite, gauche, nord, sud, tu as couvert la région, quoi, quand même.
Oui. À moins que tu veuilles faire à la côte et aller voir Marbella, etc. Moi, ça ne m'intéressait pas. Après, on peut faire un peu plus vers le sud, il y a Cadiz.
Oui.
Bon, pareil, ça ne nous intéressait pas.
Tu n'as pas fait non plus?
Non. Je vois que Yvan est en train de me faire de signes. Yvan, veux-tu
m'aider? C'est à cause de la musique, c'est à cause de Francis Cabrel.
Bah ouais, parce que tu parlais de la corrida, alors tu voulais te venger sur les corridas avec la chanson de Francis Cabrel.
Non, je veux pas me venger, mais en tout cas, je pensais que ça tombait très très bien justement, puisqu'il parle de l'Andalousie dans sa musique.
Oh, donc, très bien.
Donc on va peut-être se la passer, et puis je vais continuer tout à l'heure, vous parler un peu plus de Cordoue.
Très D'accord. bien.
Je patiente dans cette chambre noire. J'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu des fanfares, des barrières et des gens autour. Premier moment, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Mais cette place est sans issue, je commence à comprendre. Ils ont refermé derrière moi, ils ont eu peur que je recule. Je vais bien finir par la voir, cette danseuse ridicule. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? Andalousie, je me souviens des prairies bordées de cactus. Je vais pas trembler devant ce pantin, ce minus. Je vais l'attraper, lui et son chapeau, et faire tourner comme un soleil. Ce soir, la femme du torero dormira sur ses deux oreilles. Est-ce que ce monde est sérieux? Est-ce que ce monde est sérieux? J'en ai poursuivi des fantômes, presque touché leurs ballerines. Ils ont frappé fort dans mon cou. Pour que je m'incline. Ils sortent tous ces acrobates avec leurs costumes de papier. J'ai jamais appris à me battre contre des poupées.
sable sous ma tête. C'est fou comme ça peut faire du bien. J'ai prié pour que tout s'arrête. Andalousie, je me souviens. Je les entends rire comme je râle et je les vois danser comme je succombe. Je pensais pas qu'on puisse autant s'amuser autour d'une tombe. Ce monde est sérieux. Est-ce que ce monde est sérieux? Si, si, oh. Baila, baila. Ay, que baila de nuevo. Mataremos otros. Otras vidas, otros toros, mataremos otros. Venga, venga, baila.
Ça pète, hein?
C'est la version concert.
Con Francis Cabrel?
Voilà.
En direct?
Je crois qu'elle est tout récent d'ailleurs.
La corrida? Oui, je sais pas. Tu l'as trouvé?
Non, mais le concert.
Le concert?
Le morceau il est assez vieux, mais.
Oui, oui, oui.
Il a toujours beaucoup de fans, Francis.
Oui, mm-hmm. Mais c'était très chouette.
Avec l'accent du sud.
C'était bien, c'était bien emporté en plus.
Qui paraît de l'Andalousie.
On retourne à Cordoba, Cordoue, hein, c'est ça, Cordoba?
Oui,
en
j'ai fait mes.
Tu parles un peu espagnol, pardon?
Oui, un peu, oui. Mais pas du tout. Non, non. Bah justement, non, non. J'ai été le. Alors déjà, j'ai beaucoup de chance parce que on a voyagé avec ma sœur qui elle parle couramment anglais et espagnol. Donc déjà ça c'est très simple.
Ouais, ça aide.
Bon après je me suis retrouvée toute seule quand elle est partie le 31 pour Barcelone, mais comme j'ai quand même étudié l'espagnol pendant quelques années et je me débrouillais pas si mal. Et que j'avais quand même lu un petit peu là les
40 mots à connaître.
Oui, les petits bouquins dans les planètes, voilà. Et
ouais, tout est cerveza, por favor.
Et los baños. Et voilà, c'est bon. Si tu sais dire ces deux trucs-là, tu peux survivre. Donc non, c'est finalement pas trop mal. Ça m'est revenu assez facilement. Donc non, c'était bien. Oui, je disais, j'ai fait mes petites, mon homework, mon.
Oui, pendant la pause musicale.
Oui, mes petites recherches.
Alors, la Reconquista, c'est quelle année?
Alors,
environ.
En fait, la conquête de la péninsule ibérique, ça a commencé, ou en tout cas, c'était entre 711 et 726.
Très précis, quand même.
Mais après 1212.
Oui. Donc, 5 siècles.
L'Andalousie. Il n'y avait que l'Andalousie qui était musulmane, aux morts, voilà. Et ça a duré jusqu'en 1492.
Donc 2 siècles de plus. Presque 700 ans pour l'Andalousie et 500 ans pour le reste de l'Espagne.
Donc, c'est très bien de mettre un peu de contexte parce que justement, la cathédrale mosquée de Cordoue, c'est une des plus vieilles structures de l'époque musulmane en Andalousie. Elle a été construite entre 785 et 786. Et c'est ça qui est fantastique, c'est de savoir qu'elle est encore là et d'avoir...
Elle a changé puisque c'est une mosquée cathédrale, c'est
oui,
ça.
Alors c'est vraiment un... Et c'est ça qui est fantastique dans cet endroit. C'est ce mix, les deux architectures mises entre elles qui finalement ressemblent moitié à rien et font justement de cet endroit quelque chose d'unique. Donc on m'avait recommandé d'aller la visiter le matin et on a bien fait parce que la lumière dans cet endroit fait vraiment une différence énorme. Et je pourrais vous montrer des photos que l'on a prises, mais ouais, je recommande définitivement d'aller
le matin. Petit truc encore, un petit tip, comme ils disent les Anglais.
Oui, c'est vraiment magnifique. Et en fait, il y a cette la partie centrale de la cathédrale et qui est vraiment isolée. Et on a failli la manquer complètement. Et c'est vraiment, il faut vraiment s'y perdre dans cette mosquée parce qu'il y a tellement de
donc
voûtes.
C'est une mosquée, une cathédrale. C'est quoi maintenant?
C'est
la confession maintenant.
C'est une cathédrale. Et justement, j'ai lu que il y avait une association à Cordoue qui demandait à ce que les musulmans aient le droit de prier dans cette cathédrale mosque. Et ça ne l'a pas. Ils n'ont pas eu le droit. Voilà, ouais, malheureusement. Donc non, c'est une cathédrale.
Alors, tout à l'heure, tu as dit Airbnb. Est-ce que ça marche en Andalousie, Airbnb? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu le conseilles ou
oui,
autre
oui,
chose?
Oui. Alors, ouais. Moi, en fait, c'est ça que je vous racontais. J'ai fait 12 réservations sur Airbnb depuis quelques années.
D'accord.
Et en général, quand je voyage, je vais sur Airbnb. La raison pour laquelle on fait du Airbnb, c'est justement pour avoir cette expérience locale. Oui.
Mais c'est quoi le Airbnb? Parce que moi je connais pas.
C'est louer des appartements.
Tu loues une maison, un appartement ou une chambre chez l'habitant. Donc tu loues la maison entière ou l'appartement entier ou une chambre dans la maison ou une chambre dans la. Bah si t'es deux ou si t'es six, tu loues la maison.
Ce qui fait qu'en général, c'est ça que je trouve fantastique, moi, c'est qu'en général quand
c'est
tu
book a batch, c'est la même chose que chez les Kiwis, oui. On a book a batch ici.
C'est si tu vas dans une petite ville justement comme Cordoue. Où sévir, c'est quand même des petites villes avec des... Parce que comme il fait chaud, on nous a expliqué l'architecture... Enfin, ils ont construit les rues de manière très très étroite pour empêcher le soleil de rentrer, pour justement faire en sorte que les ruelles sont tièdes, ou en tout cas pas aussi chaudes. Et les hôtels, de manière générale, ne sont pas dans ce genre d'endroit. Et quand ils sont dans ce genre d'endroit, ils sont super chers.
C'est historique, donc
voilà. Donc c'est un centre historique et c'est vraiment c'est dans le boutique, quoi. Et si tu veux pouvoir rester dans le centre-ville et pouvoir aller dans le centre-ville le soir et en profiter, eh ben c'est le seul moyen.
Voilà.
Donc c'est pour ça que nous on fait ça comme ça. En tout cas, j'ai jamais eu de problème et je disais la seule fois où j'ai eu un problème, c'est à Barcelone où on a loué une chambre et c'était pas du tout la même chambre sur les photos qu'en réalité. Et au point où, parce que Barcelone, c'est quand même plus froid que le sud de l'Espagne. Et on n'avait pas de couette sur le lit. Enfin, c'était sale. Ils n'avaient pas changé les draps. Ils n'avaient pas changé les serviettes de bain, etc.
Tu t'es fait avoir, comme on dit. C'est ça,
Un petit peu, oui. Bah, ça arrive. Hein, c'est un peu jeu aussi. Et donc, je texte et je dis, mais il n'y a pas de couette. Et le mec répond, va juste falloir hausser la température du chauffage parce que j'ai pas de couette. Je fais, ouais, bon, là, ça ne va pas le faire. Donc en fait on est parti, on a loué autre chose et donc j'ai fait une demande à Airbnb pour qu'ils me remboursent et ils m'ont remboursé et ouais, ils m'ont donné un coupon de $100 néo-zélandais pour ma prochaine réservation.
Bravo.
Donc je dis bravo Airbnb, j'étais pas sûre
de rentrer dans tes fonds. Ouais.
J'étais vraiment pas sûre parce qu'on est quand même j'ai pas appelé, j'ai juste
Et à la dernière minute tu as reloué Airbnb
oui,
ou
le
31
décembre. Ouais.
Ah oui, quand
ouais,
même,
j'ai
31
réservé.
Décembre pour faire la fête du Nouvel An.
Et j'ai trouvé. Ouais. Et oui, j'ai trouvé très rapidement, ça s'est bien passé. Là, c'était pour le coup vraiment très bien.
Et t'as fait ça en anglais ou en espagnol ou les deux quand tu tapais sur Airbnb?
Anglais.
Comme en anglais, les espagnols sont super forts.
Et par contre, oui, alors je disais, le service Airbnb.
Impeccable.
Pour les gens qui sont, ils savent pas, ils sont là. Oui,
c'est dû te faire avoir. C'est
mais oui, mais en fait, je pense qu'ils ont, ils ont conscience.
Peut-être.
Que c'est une possibilité. Par contre, si ça vous arrive, et ça c'est très important, prenez des photos parce que c'est ça qu'ils vont vous demander.
D'accord.
Si vous louez Airbnb.
Très bon tuyau encore.
Et qu'il y a un problème, prenez un maximum de photos.
D'accord.
Parce que nous, c'était au point, il y avait quand même des poubelles qui avaient été descendues depuis, il y avait au moins 3 sacs poubelles.
Ah oui.
Et il y avait un sac poubelle en particulier qui était planqué dans un placard quand même.
Ah oui.
Donc là, l'hygiène.
Oui, ça devait faire une semaine ou deux que le truc était là.
Et ça sentait super pas bon et vraiment, c'était pas possible. Quoi. On a dit non, mais là, l'hygiène, il y a un minimum, quoi. Donc voilà, en tout cas, de ma part, mauvaise expérience avec cette location, mais en tout cas, très très bon, très très bonne expérience avec Airbnb.
D'accord.
Et la manière dont ils ont géré.
Alors juste pour résumer, j'aime pas quand on fait ça, mais je vais le faire quand même.
Vas-y.
Si tu n'avais qu'une seule journée, quelle ville? Alors, tu as parlé de Cordoba, Granada, Ronda et Séville. Une seule journée. C'est quoi ton top 1?
Je dirais Séville.
Séville quand même? Même si tu n'as pas réussi à faire la cathédrale, machin.
Oui, parce que Séville, c'est quand même super joli.
Ouais.
Et ça vaut vraiment le coup de se perdre. Nous, on y restait 2 nuits pour le coup à Séville. Ça vaut vraiment le coup de se perdre dans les petites ruelles. Oui, on n'a pas fait la cathédrale et aussi, justement, à la limite, je le referai. Si je devais retourner à Séville, je le referai. Mais l'atmosphère, on est allé dans une bodega. On
donc
est resté.
Tu as fait de la danse et t'as.
Eh ben, c'était l'ambiance en fait. C'était ça. On est allé dans une bodega. On a bu des 2-3 bières dans une bodega et alors, c'est super pas cher les bières en Espagne, contrairement à la Nouvelle-Zélande. Et vraiment l'ambiance familiale. Et puis Séville, c'est la ville du flamenco.
Ouais.
Et donc il y avait un homme qui jouait à la guitare dans cette bodega. Et puis les femmes, elles ont commencé à danser du flamenco avec leurs vêtements. Elles n'étaient pas habillées, etc. Mais enfin, en tout cas, l'ambiance très familiale et puis très très relax. Enfin, vraiment.
Donc t'as envie d'y rester presque. Tu te dis c'est 2 jours, mais je finirai bien 3e.
Voilà. Exactement. D'accord. Donc non, très bien, très très bien Séville.
À manger. T'es resté au restaurant, t'as fait des courses au supermarché. Qu'est-ce que tu recommandes?
Alors, les restaurants.
Et j'imagine que le manger andalou, c'est sympa aussi.
C'est le manger espagnol, donc c'est des tapas. Alors après, moi, j'adore le fromage ibérico et le ramon, mais c'est pas le goût de tout le monde.
En tout cas, de culture musulmane, donc genre méchoui, tout ça, puisque attends, 7 siècles de mort, je me suis dit peut-être que la tagine serait restée ou le couscous ou quelque chose.
Si tu as pas mal de restaurants, pour le coup marocains, mais non, on en a fait un qui était tenu par un Français ou en tout cas par quelqu'un qui parlait français, donc c'était très très bien, la nourriture très bien, mais ça c'était à Grenade. Donc si tu vas trouver énormément de restaurants musulmans, mais bon, nous, enfin, on cherchait plus le côté bodega, donc voilà, donc on a fait un peu plus de bodega.
D'accord.
Et sinon, oui, je disais, ils ont vraiment cette culture de vivre le soir et essayer de trouver un restaurant ouvert à 6 heures, c'est limite impossible.
Parce que c'est fermé, oui.
Ils
ouvrent beaucoup plus tard, c'est l'Espagne.
Et oui, du moins, ils ne servent pas à 6 heures. Et ils ont vraiment cette culture de l'apéritif et de prendre une bière justement à 6 heures et d'aller manger beaucoup plus tard. Et ça, c'est vraiment un côté qui me manque ici et j'ai vraiment, vraiment aimé en Espagne. Et puis, je ne sais pas si c'est le soleil, je ne sais pas si c'est le fait justement que l'alcool ne soit pas cher, mais ils sont gentils et souriants, ces gens.
Oui.
Ils sont accueillants. Par contre,
Il faisait moins grise mine, moins de gilets jaunes en Espagne. Parce qu'on nous a dit que que la Belgique, l'Allemagne, tous les gilets jaunes, ils sont un peu partout en Europe maintenant. Donc, est-ce que c'est grise mine en Espagne ou pas du tout?
Ça n'avait pas l'air, mais en fait, c'est ça que j'expliquais aussi, que je l'ai trouvé assez. En France, énormément de de mendiants, en tout cas beaucoup de gens qui demandent de l'argent. On voit beaucoup de gens sans un peu la misère, je trouve, sur les bords des routes, etc. Eh ben en Espagne, non.
Non.
Alors, je sais pas si on n'a pas de chance à Paris, mais en tout cas, on a énormément de gens dans les rues, etc. Donc là, c'était vraiment un climat complètement différent. Et puis, donc je disais, les gens sont très souriants et très accueillants. Par contre, il y a un truc, c'est vraiment important. Il faut vraiment que vous parliez un peu espagnol, parce que les Espagnols, ils sont chauvins. Et ils aiment bien qu'on leur parle en espagnol.
Bah, comme la France aussi. Hein,
exactement. Ça. Donc, ils sont... Ils vont aider, ils vont parler en anglais s'il y a besoin, mais c'est vrai qu'on sent que, de manière générale, l'attente est très claire. Faut quand même s'adresser à eux en espagnol.
Pas en catalan.
En catalan, ça c'est plus... Non, même pas. Parce que ça c'est plus Barcelone, et Barcelone, je l'ai fait en espagnol, c'était pas un problème. L'autre conseil que je disais tout à l'heure, donc, c'est de réserver bien à l'avance, parce que c'est vrai que le tourisme, c'est quand même...
Toute l'Europe est au pied de l'Espagne aussi, donc j'imagine que beaucoup de gens y vont.
Oui,
pas que des Kiwis.
Et puis je pense que de toute façon, de manière générale, le tourisme s'est normalisé beaucoup plus. Avant, c'était quelque chose de... ça coûtait beaucoup plus d'argent, maintenant un peu moins. Et visiter l'hiver, c'est très bien. Il y a moins de monde et c'est pas si froid que ça. Vous aurez quand même besoin de votre manteau d'hiver, mais en tout cas, ça est sûr que ça vaut le coup d'y aller en hiver. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller sur le site internet qui est www.andalucia.org. Et vous aurez accès à un site internet qui vous dira tout sur cette belle région. Voilà.
Super, l'Andalousie.
Merci.
Donc, ça nous donne envie en tout cas.
Ouais, ouais.
Donc il faut y aller plutôt en juin, juillet ici.
Ah bon? Bah non, juin, juillet...
Non, je conseille, vas-y après Noël, parce que Noël, c'est toujours partout dans le monde, c'est comme New York, aller à Noël, il fait froid, mais enfin tout le monde y va quand même. Non, je dirais, vas-y facilement janvier, février. Il fera froid, mais il fera comme ici en hiver. Donc très, 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 très accessible.
D'accord.
En hiver, des fois, il fait froid ici.
Entre octobre et mars, disons, peut-être.
Vas-y au moment où personne n'y va, techniquement.
Voilà. Bon, bah on se... petite musique, si tout marche bien, j'ai un engin qui va peut-être pas faire marcher, mais ça s'appelle Un homme debout, c'est Claude Capéo. C'est un nom peut-être espagnol ou italien, je sais pas, Claude Capéo. Mais enfin, ça veut rien dire. Mais c'est une chanson française. Allez, on y va. Je vous passe ça de suite, si ça marche. Je mets le son à fond. 1, 2, 3, je meuble. Ah non, ça ne marche pas.
Donc on n'a pas le son parce qu'on essaye les prises. Alors si vous voulez, pour les détails techniques, voilà. On essaye des prises USB.
On
se rend pas compte, il y a tellement de choses qui se passent.
Oui, la technologie. On pensait que ça pourrait être Bluetooth, mais bon, vu la table de mixage que nous avons, c'est plus 70s. Hein.
Oui, mais c'est bien.
Non, mais bien sûr.
Mais on y revient d'ailleurs, les 70s. Je ne sais pas, j'ai été pané.
Oui.
D'ailleurs... pourquoi, David, tu n'as pas amené tes vinyles?
Bah parce que tu peux pas les jouer.
Bah non, on n'a pas de platine vinyle. C'est ça qui manque.
Finalement,
en fait.
Tu vois, finalement pas si 70s que ça.
Voilà. Donc, si vous voulez nous...
Voilà, j'ai trouvé. Claude Capéo, Un homme debout. Je vais mettre la musique à fond si ça marche.
Voilà.
Oh, c'est beau.
Nous sommes à Montalbert.
On est à Pont-Chevalier ici. Hein.
Non, Montalbert, Carrington Road.
Non.
Dans les studios de Planète FM. Non, Virginie, quoi. On est entre Montalbert.
T'as mis de la musique ou pas?
Ça y est, c'est parti.
Ah
hein.
Ouais, c'est beau.
On écoute?
Ça marche, quoi. Hein. Je l'ai dans le casque.
Et on va discuter sur Montalbert et Pont-Chevalier.
Ah, d'accord.
Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte, priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute, ne me fermez pas la porte. Oui,
je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Merci. Pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Moi je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne branche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, de parfois, j'ai qu'une envie, abandonnée. Si je m'endors, me réveillerai-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Voilà, un homme debout, Claude Capéo.
C'était très bien.
Bon, puis ça a marché à la fin.
David qui parlait des gilets jaunes, il a son micro jaune ce soir.
Le micro jaune ce soir.
Ouais, avec la mousse,
Yvan, de
la mousse jaune.
Hein, on continue le voyage. Je concure, sinon, au niveau Airbnb, ça fait 3-4 ans que je fais Airbnb. J'ai fait Airbnb au Japon, en Scandinavie, dans 4 pays différents, au Canada. J'ai fait Airbnb. Non, j'ai pas fait Airbnb à Hawaï. Mais enfin, c'est pas grave. Et en Nouvelle-Zélande, je viens de faire Airbnb à Oamaru, dans l'île du Sud.
À Oamaru, oui.
Et c'était très chouette, très facile. Et moi, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, touche du bois, pour l'instant.
Et pour avoir un ordre de prix, ça coûte dans les combien en
Nouvelle-Zélande ? C'est comme tu veux.
C'est ça qui est superbe, c'est que le site te donne une jolie petite carte avec des petits points et puis il y a les prix sur les points, donc la nuit à $98 ou la nuit à $3000 quand tu vas sur Queenstown, tu cherches Queenstown Airbnb.
Ouais,
là,
moi
tu
c'est
as des surprises à Noël.
3000, moi.
Oui, c'est plutôt 3000 toi.
Pareil,
aussi, ouais.
J'aime bien,
pareil,
j'aime bien aussi,
le luxe aussi, donc Queenstown, ça m'a un petit peu surpris. J'ai fait bon, bah, on va pas faire Airbnb, on va faire un motel ou un hôtel.
C'est ça,
un
truc, ben oui. Parce qu'en fait,
parce
ça,
que
oui.
Airbnb à Queenstown au Nouvel An, c'était yes.
Mais moi, parce que le truc, c'est que tous les pas chers partent en premier.
Voilà, il y a ça aussi.
Et la tente, on peut faire aussi.
La tente, oui, tu peux tenter chez quelqu'un. Non, mais non, tu loues un lit. Si t'es tout seul, tu loues un lit. Même à deux, tu loues un lit, c'est pas cher. Mais moi, on était 8, donc il fallait que je loue une maison entière. Donc la maison entière à Queenstown coûtait très 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 cher. Bon, ou un appartement.
Mais tu peux faire. Alors ils ont des trucs, ça s'appelle les insolites. Ah. En fait, tu peux louer des trucs un peu bizarres,
oui.
Si c'est disponible. Nous, quand on était à Cherbourg, on a dormi sur un bateau.
Ah, génial. Sur une péniche?
Tu peux faire péniche à Paris. Oui, il y a des péniches.
Oui, tu
sur Airbnb à Paris ou à Amsterdam ou dans toutes les villes où il y a de la flotte, il y a souvent des péniches en Europe.
Donc nous,
j'avais failli au Danemark. J'ai dit, oh, est-ce que je fais sur les canaux de Copenhague? Et puis j'ai pas fait.
On était 1, 2, 3, 4, 5. Et on a loué un bateau avec trois lits.
Super.
Et c'était moins cher que l'hôtel sur Cherbourg.
En fait, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'avec Airbnb, des fois, tu te dis, oh, le prix... Parce qu'il te reste, je sais pas, si t'es un peu en retard, tu regardes la carte et puis il reste plus que 5 ou 6 ou 7 places Airbnb pour 5 personnes, 6 personnes. Mm-hmm. Puis alors... tu te dis, oh, mais les prix sont chers. Mais en fait, tu divises par le nombre de chambres qu'il te faudrait réserver à l'hôtel et tu dis, ah oui, mais l'hôtel, en fait, ce serait deux fois plus cher si je louais 3 chambres.
Voilà.
Donc, tu te dis, oui, c'est cher, mais pour 6 personnes, 8 personnes, c'est moins cher.
Voilà.
D'accord. Et si tu voyages tout seul, est-ce que c'est mieux qu'un backpacker, par exemple?
Ah oui.
Hein,
pour moi.
Pour moi, il n'y a pas photo.
Mais au niveau prix?
Ça va dépendre de ce que tu vas choisir, parce que tu peux avoir juste une chambre chez l'habitant et ça va coûter vraiment quasi rien.
Rien du tout.
C'est-à-dire?
Ah ben, ça dépend, je te dis,
40,
ça dépend
60,
de l'endroit.
80 dollars, ça dépend de l'endroit, et puis ça dépend, il y a trois niveaux de caution. Il y a la caution super sécuritaire, c'est-à-dire que le mec qui est paranoïaque, il a une mauvaise expérience, il veut louer, mais il veut pas vraiment louer, il a envie de prendre les sous avant de te louer. Donc lui, il va dire, ah bah, il faut 100 dollars de caution, et puis on te la retourne, mais on te la retourne pas. Il y a aussi celui qui veut que tout soit propre. Mais il va mettre de l'argent, c'est-à-dire il va dire bah, pour nettoyer c'est 60 dollars, et celui qui dit je veux que ce soit propre, mais c'est toi qui vas le faire, mais il n'y a pas d'argent, on s'en fout, c'est 5 dollars pour le nettoyage, etc. etc. Moi, en Scandinavie, souvent, on faisait le ménage, nous. Donc ça ne nous a rien coûté en ménage, on restait 3 nuits, 5 nuits, 4 nuits, il n'y en a pas de forfait ménage, on ne prenait pas un forfait ménage à 100 dollars pour nettoyer après. On a fait la vaisselle, on a nettoyé toute la place, on a fait l'aspirateur avant de partir. Et tous les gens, et ce qui est bien, c'est que les gens te laissent des notes. C'est-à-dire, ils te disent...
feedback.
Des revues.
Et, ouais. Oui, ils te donnent des revues. Et toi, tu fais des revues de la place aussi.
Et plus t'as de revues.
Plus c'est mieux. Parce que moi, toutes mes revues en Scandinavie, c'était « Oh, vous avez laissé l'appartement plus propre que vous ne l'avez trouvé. » C'est vrai, parce qu'on faisait le ménage pendant 2 heures juste avant de se barrer. Mais on restait 5 jours. C'était 5 jours. Donc, sur 5 jours, pour moi, ça valait le coup de ne pas payer 100 dollars de ménage, de me faire suer 2 heures avant de partir. Je prenais un train, un avion, un bateau ou un bus ou bah, j'avais une voiture de location de temps en temps. Mais moi, ça valait vraiment le coup de faire 2 heures de ménage, pas payer 100 dollars de plus. Mais sur 5 jours, je m'étais dit 2 heures.
Et alors, quand on voyage seul, d'accord, on loue par exemple une chambre, ouais. Mais est-ce qu'il y a un repas en commun ou comment on fait pour.
Bah, c'est pareil, ça dépend.
Ça dépend.
Ah bon.
T'as des options où c'est possible.
Voilà. Il y a des options, ta petite chambre est à l'écart et tu les vois jamais, quoi. Bah si, tu les vois pour qu'ils te donnent la clé. Et des fois, même pas, des fois, là, sur Rotorua.
C'est des digicodes.
J'ai fait Airbnb à Rotorua. Je conseille aussi, super maison au bord du lac. J'avais jamais vu, très très belle maison. Et la clé était dans un padlock, là, un lock, je sais pas comment ça s'appelle, ni en français, ni en anglais. Donc la clé, il me donne le code, c'est tout écrit. Et comme c'est par internet, c'est sécurisé, c'est-à-dire que il te donne les mots de passe qu'à toi, il te le donne à la dernière seconde quand t'arrives. Et donc j'ai mis le code, hop, je suis rentré dans la maison, j'ai mis le code de l'alarme, tout va bien, je suis rentré, et j'avais une grande maison de 5 chambres, rien que pour moi, avec jacuzzi,
en fait,
machin chose.
Et c'est pour ça que c'est important, c'est plus tu loues, plus ça devient simple, parce que plus tu loues, plus t'as de revues, plus t'as de revues, plus ils te font confiance, plus t'as accès à des maisons qui peuvent être plus chères, par exemple, ou parce que t'en as qui veulent où tu mets, t'envoies ta carte d'identité, ta photo, ton passeport, etc. Ou là,
oui,
déjà...
il faut tout, hein. C'est Fortnox, ça, ouais. Et puis, au bout d'un moment, t'as plus rien. Tu te donnes rien, te demande rien, mais parce que tout est pré-réentré aussi. Mm. Et puis, il y a la confiance.
L'idée, c'est de faire partie d'une. Comme d'une communauté.
Communauté de voyageurs qui échangent. Au départ, c'était pour échanger des appartements ou des maisons. Au départ, le concept, c'était l'échange de lits, en fait. Tu as besoin d'un lit et puis un autre voyageur viendra chez toi, voilà. Mais au fur et à mesure, c'est devenu comme un second hôtel, mais chez l'habitant, quoi. Mais avec un côté revue personnelle.
Puis moi, c'est, enfin, moi, le truc que j'adore, c'est vraiment, après, tout le monde est différent. Il y a des gens qui adorent les hôtels. Moi, j'aime pas.
Bah,
déjà, j'aime pas
moment,
ne pas avoir
lasse.
Le choix.
Un hôtel de temps en temps avec un bon petit déj, s'il y a piscine, jacuzzi, machin, de temps en temps, ça fait pas de mal. Mais faire des hôtels une semaine, deux semaines, trois semaines, bah, à la longue, un lit, c'est un lit. Donc, vaut mieux une bonne expérience chez l'habitant. Bah, pour moi, c'est important parce que j'ai deux gamins en bas âge. Et au Danemark, en Suède, tout ça, bah, t'arrives chez les gens, il y a des livres, il y a des télés. Bon, il y a des télés dans les hôtels, mais il y a des Lego.
Il y a plus d'espace.
Il y a des jeux de société, il y a de l'espace. Et donc, mes deux enfants pouvaient se mettre tout de suite, boum, ils rentraient, ils voyaient les Lego, ils voyaient les livres, ils voyaient les DVD. Ça les inspirait, c'était comme un deuxième chez eux pour 2, 3, 4, 5 nuits. Alors, quel hôtel t'arrives ? Il y a un lit, une salle de bain. Et peut-être une télé. Et donc, et la télé est en serbo-croate, donc t'es super content. Ah oui, j'ai fait la Croatie en Airbnb aussi. Donc, ce que je dis, c'est pour moi, Airbnb, c'est salutaire, surtout en famille ou en groupe, mais même tout seul en fait. Bah, tout seul, non, parce qu'un lit me suffit. Donc, rapport qualité-prix, hôtel petit-déj, je pense que tout seul, je ferais. Bah, sauf sur la durée. Un mois d'hôtel, je me fais sauter la tête, quoi. Mais je veux dire que je ferai de l'hôtel tout seul, je ferai plutôt de l'hôtel, je pense.
On peut rencontrer des gens, non?
Bah, non, pas vraiment, non, parce qu'ils te donnent la clé, t'es chez toi. Hein. Enfin, moi, c'est mon expérience.
Ben oui, pareil, ça dépend. Parce que tu peux trouver, par exemple, tu peux trouver des auberges. Mais vraiment, ce que j'appelle une auberge, quoi. T'auras des chambres, puis t'auras une table. Une table où les gens se retrouvent pour manger, etc. Mais le concept, c'est quand même plus, oui, t'as une chambre. Mais ça dépend ce que tu, voilà, c'est vraiment ça dépend ce que tu recherches. Mais après, je vois des auberges de jeunesse, t'en trouveras aussi sur Airbnb, hein, tu pourras en trouver, je pense.
Ouais, parce que le concept backpacker en dortoir à 4 ou à 10, c'est pas le top, quand même.
Oui, mais c'est bien aussi pour le, backpacker, moi, j'aime bien de temps en temps, j'en ai fait un encore cette année, la semaine dernière, je voulais raconter l'île du Sud, mais j'aurais plus que 12 minutes, donc je sais pas comment je peux faire, mais c'est pas grave. L'un des backpackers qu'on a fait, c'était sympa parce que, le côté communal, par contre, rencontrer des gens de tous les horizons, ça n'est arrivé. C'est-à-dire que, bon, on a fait notre manger dans la cuisine communale. Il y avait un Allemand, deux autres Français de Cognac, de la région de Cognac, qui lui faisait du Cognac en plus, donc intéressant. L'Allemand très sympa qui faisait de la photographie professionnelle. Un couple d'Anglais qui était très sympa aussi qui passait. Deux autres Kiwis. Etc, etc. Et donc, on fait sa cuisine, on mange, on discute, on rencontre des gens. Et il y a un côté social dans les backpackers que tu n'as pas ni dans les hôtels, ni chez l'habitant, si tu es tout seul. Si tu as la maison de l'habitant tout seul, en Croatie,
rencontrer personne.
Tu vas rencontrer personne. Mais en Croatie, si, à chaque fois que j'ai loué chez Airbnb en Croatie, souvent, il y avait des gens qui nous donnaient les clés, nous racontaient, nous montraient comment servir des machines, ouais. Etc., etc. Donc, en Croatie, si, j'ai bien vécu le côté relationnel, parce que en même temps, bah, pendant la demi-heure qu'ils étaient chez eux, en train de nous montrer comment ça marchait, ils nous disaient où étaient les bons restaurants, où ils nous proposaient de nous prendre un taxi, ils disaient, oh, bah, je peux vous déposer quelque part. Donc là, il y a un côté plus personnel, mais une demi-heure plus tard, ils étaient partis, on ne les voyait pas pendant 5 jours, ou à la fin pour leur donner les clés. Alors que, ce qu'on a vu, j'ai vu personne. J'ai eu les clés dans la boîte aux lettres, ou sous le paillasson, ou dans
le code. Et tu sais, en fait, ce que ça me rappelle, Airbnb, c'est un peu les gîtes ruraux.
Ouais.
C'est un peu le même concept, sauf que les gîtes ruraux, fallait limite les réserver un an avant. Parce que ça se faisait par téléphone, ou ça se faisait par une centrale de réservation, fallait y aller, etc. Là, c'est fait sur le net. Mais c'est le même principe. C'est
tu as raison.
Quelqu'un qui a une maison, ou quelqu'un qui a un appartement, une chambre, et tu vois, là, tu loues et ça appartient à quelqu'un. Et donc, tu vis une expérience locale.
Très bien. Voilà. Et David, tu voulais nous parler de ton expédition sur les glaciers néo-zélandais.
Pas que les glaciers. Donc, je viens de faire 11 nuits dans l'île du Sud. 19 ans après mes deux semaines passées avec mes parents. Déjà, mes parents sont de retour en Nouvelle-Zélande pour la 5e ou 6e fois. Donc, je les salue, s'ils écoutent. Bonjour papa, maman. Donc, deux semaines dans l'île du Sud, un grand tour. Cette fois-ci, on a fait Nelson. La différence, c'est cette année, 2019, janvier 2019, nous avons fait Nelson, débarquement à Nelson, retour à Christchurch. J'ai loué un van. Là, donc, je me suis arrêté dans des motels, des lodges, des campings, un Airbnb, qu'est-ce que j'ai dit d'autre, et un backpacker. La première fois, j'avais loué un camper van, donc un où on peut dormir dedans. Nous n'étions que quatre, là on était huit. J'avais fait Christchurch retour. J'avais ce que je n'avais pas fait la dernière fois, je n'avais pas fait ou vu Nelson, Picton, donc Marlborough et Abel Tasman. Cette fois-ci, ce que je n'ai pas fait, puisqu'on a commencé à Belton, c'est Kaikoura. Donc, entre Christchurch et Picton, c'est le seul truc que je n'ai pas fait cette fois-ci. Donc, une atmosphère différente. Camper van, à part le côté Airbnb, je pense que je ferai l'île du Sud en camper van la prochaine fois. Mais on était 8, donc c'était, il n'y a pas de camper van pour 8 personnes. C'est
marrant, difficile. Moi je me dis toujours, les camper van, c'est... Alors après, je n'ai jamais fait de séjour en camper van, mais je suis toujours celle qui est coincée derrière un camper van dans l'île du Sud avec ma voiture et essayer de les doubler.
L'avantage maintenant, avec du recul, l'avantage d'il y a 19 ans et maintenant, c'est le camper van, tu t'arrêtes où tu veux, quand tu veux, tu t'es pas forcé là, c'est Noël, hein, Noël, jour de l'an. Il a fallu que je réserve 4 mois à l'avance, 3-4 mois à l'avance. Il y avait des villes comme Queenstown n'avaient rien. Les glaciers, il n'y avait aucun truc de libre. 3 mois à l'avance, il n'y avait plus rien dans les glaciers. On a couché à 100 km des glaciers. Donc il a fallu conduire 1h20, 1h30 pour arriver au glacier. Que je ne recommande plus. J'ai fait le glacier il y a 20 ans. Virginie, tu disais il y a 10 ans. N'allez plus voir le glacier. Il n'existe plus. Il a fondu. Les deux glaciers ont fondu. Bah, Fox et Franz Josef. Si vous voulez faire de la marche ou une belle promenade, oui, allez-y. Mais si vous voulez voir un glacier, il vaut mieux prendre un hélicoptère ou un avion et aller sur un vrai glacier qui se trouve dans les Alpes. Il y en a encore une douzaine. Vous inquiétez pas, vous pouvez voir des glaciers. Mais Fox et Franz Josef, c'est fini, c'est tout gris, c'est tout petit, ça a très très fondu. Je vous invite à voir Mont Cook, voir Lake Te Kapo, voir d'autres côtés des Alpes. Que ça, je suis désolé, c'est mon avis. Il y a 20 ans, j'étais très 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 content de voir les glaciers, ils étaient très très beaux. Maintenant, ils sont presque inexistants. Je suis très désolé.
Alors, tu as pensé quoi de Abel Tasman? Parce que moi, j'ai fait la randonnée.
J'ai beaucoup aimé. Oui. Mais on n'a pas fait de randonnée parce que ma maman a 81 ans, ma fille est en 7 ans, donc il fallait que je le fait de faire des grandes randonnées de 4 jours, c'était pas pour nous.
3 jours.
Oui, 3 jours, 2 jours, 4 jours.
On peut le faire en kayak.
Mais ce qu'on a fait, nous, c'est, j'ai conduit jusqu'au démarrage, qui est à Matoroma, et c'est pas à Kaiteri. Tout le monde dit, oh, allez à Kaiteri. Donc, j'ai évité, et j'ai eu raison, parce que je suis revenu par Kaiteri. C'est la Mecque du tourisme à côté de Nelson. C'est là où commencent les jeunes de 15 à 25 ans. Mais en fait, si tu vas 15 km plus loin à Matoro, je crois, c'est vraiment là où commence la marche. Le Abel Tasman commence vraiment là. Et c'est vide. Il y a un seul café, il n'y a pas de ville. Oui, il y a du kayak, il y a du ferry, il y a ce que tu veux. Tu peux faire du cheval sur la plage, c'est superbe. Il y a quelques campings. Il y a un grand parking où tu peux garer ta voiture. Voilà. Et il y a les randonneurs. Mais il n'y a pas la plage bondée. Je n'avais jamais vu de plage aussi bondée que celle de Kaiteri. C'est la première fois que je vois une plage bondée à l'européenne en Nouvelle-Zélande.
Ah bon?
Kaiteri, c'est pas celui qui est justement à la fin? Et où c'est...
C'est du côté de Nelson, c'est à 1h20 de route.
C'est la plage qui est... C'est une plage de Department of Conservation, oui. Et c'est un camping où il n'y a pas d'électricité.
Non, c'est pas ça. Là, ce serait plutôt Matoro qui serait comme ça. Non, Kaiteri, c'est la grosse ville, village maintenant... une personne tous les 50 centimètres sur la plage, des voitures tape-cul sur les 500 mètres de plage, des campings partout, des hôtels. C'est très chouette. Je dis pas il faut pas y aller, je dis si on a 15 à 25 ans, il faut être là. Mais si on n'a pas 15 à 25 ans,
et qu'on veut
juste faire de la marche et voir Abel Tasman, aller 15 km plus loin, il y a un très chouette camping, il y a un très très grand parking. Et la marche commence vraiment. Il y a un très bon café juste au coin, un seul. Donc voilà, je vous conseille ça. Si vous voulez faire partie de la Mecque du tourisme, allez à Kayseri. Mais c'était pas mon but. Je voulais pas montrer à mon tonton et ma tata qui c'était leur premier voyage eux en Nouvelle-Zélande. Je voulais pas leur montrer le côté touristique. Je voulais leur montrer le côté sauvage et encore vert de la Nouvelle-Zélande.
Alors sur l'Ibo Tasman, et si vous ne l'avez pas fait, donc en fait on peut accéder que en ferry de mémoire de Nelson. Ça s'appelle Awaroa et c'est un inlet, je sais pas comment ça s'appelle,
oui, c'est une petite île, un îlot,
c'est pas un îlot, c'est un.
Oui, c'est un banc de sable, c'est un banc de sable.
Non. C'est sur la côte, c'est un
bout de côte,
un inlet, je sais plus comment on dit,
Bout de terre.
Non, mais c'est pas un bout de terre justement, c'est un bout de mer dans la terre.
D'accord.
Et c'est absolument magnifique. Donc, par contre, on ne peut y aller que en prenant le ferry.
Bah, ou en kayak. Si on kayak fort.
Ouais, mais en kayak, ça fait quand même un peu loin.
Un peu loin.
Donc, je dirais, prenez le ferry de Nelson et il vous dépose, sur la baie d'Awaroa et après, on peut marcher, revenir, etc. Là, justement, on peut rester sur dans des Airbnb ou alors il y a, on peut réserver pour rester.
T'as fait des Airbnb dans le Abel Tasman?
Non, j'en ai pas fait. Mais par contre, je suis restée dans les huttes.
Les huttes, oui.
Les huttes du Department of Conservation. Ouais. Les chalets, voilà, de randonneurs. Donc, et il y en a un justement à Oaha. Par contre, faudrait peut-être, je pense, qu'en pleine
réserver
saison.
Réserver à l'avance.
Voilà, parce que super, super.
Je crois que c'est du 6 mois facile hein, pour la haute saison. Hein. C'est du 6 mois de réservation.
Non, c'est.
Non, sinon les petites différences, le côté agréable, les points positifs de la Nouvelle-Zélande, du tourisme maintenant en Nouvelle-Zélande, dans l'île du Sud. Beaucoup de choses ont été faites, DOC, mais aussi les privés comme les publics, donc pas que DOC, les villes, ont beaucoup amélioré les routes. Il y a 20 ans, quand j'ai fait l'île du Sud, il y avait beaucoup de gravats partout, et des gravillons, et c'était tape-cul pour faire presque toute l'île du Sud. Maintenant, la route est très très belle, très élargie, que ce soit les routes de l'Ouest, les routes dans les Alpes, toutes les routes, c'était du très beau bitume. Pareil, Punakaiki, les pancakes, c'était, ça a très 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 bien été modernisé. Doc a fait un très beau boulot. Ce qui manque maintenant, c'est le côté sauvage. Quand on fait ça il y a 20 ans, que c'est les gravillons, qu'on marche, on crapahute sur les rochers, on a l'impression d'être dans l'aventure. On a l'impression d'être l'un des premiers à marcher dessus. Maintenant, faire Punakaiki, c'est très bien si on est en chaise roulante. Bah, on peut faire Punakaiki en chaise roulante, c'est superbe. Honnêtement, je vous conseille. Et beaucoup de sites sont comme ça, beaucoup d'attractions touristiques ont très très bien été refaits, c'est bitumé partout pour marcher. Le petit chemin fait 2 mètres de large, on peut pas y passer en voiture, mais presque. Alors que il y a 20 ans, c'était du gravillon, de la caillasse et fallait crapahuter.
Il y a beaucoup plus de touristes qui viennent en Nouvelle-Zélande.
C'est très bien fait, mais le côté aventure est un peu perdu. Il nous reste une minute, t'avais envie de mettre une musique, c'est ça hein?
Juste une petite musique instrumentale.
Donc on se dit au revoir, je parlerai de l'île du Sud une autre fois. Ça s'appelle La Thune, c'est déjà commencé je crois sur mon truc. C'est Angèle. On passe en bruit de fond pendant que je vous dis au revoir et que je parle de l'île du Sud ou quoi?
Oui, ouais. Si tu veux, je disais...
Non, ça marche pas.
Ça ne marche toujours
non,
pas.
Non, ça marche toujours pas.
C'est parce que j'ai pris le fil. Hein.
Nous avons énormément de problèmes techniques.
Ah non, c'est toi qui veux mettre
ta
musique.
Non, mais c'est bon, on va la mettre.
Bah non, on parle
jusqu'à la fin.
Non, c'est trop tard. Allez, c'est toi qui passes ta musique, vas-y. Tu parles de quoi? Quelle musique, toi? Bonsoir Virginie, bonsoir Yvan, sinon. À la semaine prochaine.
C'était le thème de la forêt.
Je pense que ça va jamais pouvoir passer là. Non, je disais juste le camping qui n'a pas l'électricité, qui appartient au Department of Conservation, c'est Totara Nui.
Totara Nui, voilà. Mais il y en a plein sinon un peu partout dans le coin. Mais plein de belles choses. Voilà, l'île du Sud, c'est quand même très 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 sympa à faire. Les routes étaient bien, c'était pas trop encombré. Je me suis dit, nouvel an, tout ça, ça va être difficile. Mais non, c'était sympa. Donc, à faire absolument. Queenstown, c'était un peu beaucoup quand même de gens, de touristes quand même.
Énormément
c'était...
de gens le 31 décembre à Queenstown, beaucoup de jeunes.
Ouais, puis même pas que le 31, le 1er, le 2, enfin voilà. Sinon, les Milford Sound, c'est toujours aussi sympa. Les Kathleen's, j'ai refait les Kathleen's, j'y retournerai. Ma femme et moi, on s'est promis de retourner faire les Kathleen's pour une troisième fois avec les enfants plus longtemps. Donc, c'est ma redécouverte. 20 ans plus tard, je me refais les Kathleen's d'ici peu parce que c'était très, très chouette. Bonsoir, bonne semaine.